Toujours à l'écoute des mots pour le dire, toujours en compagnie de Michel Théron, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, toujours dans le troisième chapitre pour cette troisième partie de l'émission, les voies de l'unification. Je pensais pendant la pause musicale à ne plus demander un café gourmand, parce que c'est très à la mode, et oui. Effectivement maintenant...
Vous avez raison, il faut le demander, le café gourmand. Il faut réaliser ces mélanges, ces échanges. Hein. Simplement, il faut remarquer l'originalité du langage ici. Vous voyez, c'est quelque chose...
Donc je dirais, s'il vous plaît, un café pour le gourmand que je suis.
Ah voilà, alors ça serait une analyse logique, une mise en ordre logique du monde. L'expression serait plus propre, comme on dit, comme on parle d'impropriété d'expression. Mais vous savez, Redouane, l'essentiel de la poésie, c'est ce que l'on appelle à partir du grec une katakrèse. Une katakrèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Katakrèsis. Krèsis, c'est l'usage. Kraomai, krestai, ça veut dire se servir d'eux. Hein. Et kata, c'est contraire. Hein. Contraire à ce que l'on attend. Donc, une katakrèse, c'est une impropriété. Une impropriété. Hein. Mais... Et dès que le premier, quand on a fait une chaise, par exemple, quand on a parlé des pieds de la chaise, c'était une catacrèse, hein. Quand on a fait un fauteuil, quand on a parlé des bras du fauteuil, c'est une catacrèse, puisque pieds et bras ne concernent que le corps humain, vous voyez. Donc ensuite, la catacrèse va se lexicaliser, c'est-à-dire passer dans le dictionnaire, et on ne sent plus la figure. Hein. On parle ordinairement des pieds d'une chaise ou des les bras du fauteuil. Sauf si on fait une restauration de sens et un jeu de mots. Par exemple, si je dis « ce fauteuil vous tend les bras », par exemple, vous voyez, à ce moment-là, je retrouve l'impropriété initiale. Mais, par exemple, le mot « feuille de papier » aussi, c'est une catacrèse. Les feuilles sont dans les arbres, si vous voulez. Hein. Bon, donc, vous voyez, à l'origine, il y en a beaucoup de catacrèses. Alors, ces impropriétés logiques, c'est l'essentiel de la poésie. Alors, quand cela n'est pas lexicalisé, alors on a la métaphore, mais la métaphore aussi peut se lexicaliser. Par exemple, si je dis déclarer sa flamme pour dire son amour, je lui ai déclaré ma flamme, bon, tout le monde comprend que la flamme, depuis le feuilleton Les Feux de l'Amour, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une métaphore.
Oui, c'est ce que nous enseignait un professeur de théologie, en particulier pour ce qui est le passage de là, ce qui est pour les catholiques l'Eucharistie, hein, la Sainte Cène pour les protestants, en disant « quand Jésus dit ceci est mon corps, c'est comme quand je dis ceci est ma sœur ». C'était symbolique. Et du coup, ça donne une autre interprétation. Et il ne faut pas être trop fondamentaliste. Et par les temps qui courent, effectivement, il faut prendre de la distance par rapport aux images, et que l'image n'est pas la réalité.
Absolument, et là vous avez absolument raison. La vision littérale de l'Eucharistie, c'est un monde romain, catholique romain, je pense qu'il en est de même aussi, je crois, un monde orthodoxe, bon, je parle sous réserve là, mais un monde romain, elle a été la réalité, la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie, a été imposée par le Concile de Trente en réaction la vision symbolique des réformés. Voilà, donc ceci est mon corps, vous pouvez dire effectivement simplement, non pas « est » mais « représente » ou « signifie », vous voyez, et c'est votre vision. Mais cette vision littérale, à mon avis, alors vous voyez, et c'est un thème qui m'est cher, le littéralisme me semble toujours dans l'histoire succéder au symbolisme, à l'inverse de ce que l'on croit. Le symbolique est toujours premier, et le littéral vient après, dans une intention polémique. Là, l'Église romaine a voulu affirmer la présence réelle, contre justement Calvin et les réformés. Donc c'est comme le dessin des enfants qui au début est symbolique, n'est pas du tout littéral, pas du tout réaliste. Et après l'enfant, on lui apprend à l'école à dessiner en perspective, on lui apprend que la taille d'un objet est proportionnelle à son éloignement, etc. Bon, donc là on lui apprend le réalisme. Mais chez l'enfant, le symbolisme précède le réalisme. Alors, je crois qu'il en est de même dans l'évolution des dogmes, dans l'évolution des croyances. Pendant un siècle, on ne savait pas comment Jésus était présent dans l'Eucharistie. Je crois qu'Augustin disait qu'il était super quem dam modum, sous une certaine façon, présent d'une certaine façon. Mais c'est le Concile de Trente qui a imposé ça, d'où le fameux Saint-Sacrement, etc. Et le fameux Mysterium Fidei, mystère de la foi, de la messe catholique. Vous voyez, voilà, ça permet de rebondir votre idée, la Redouane. Effectivement, il faut admettre que rien n'est sûr, qu'il faut pas fermer la porte au symbole. Le symbole, c'est ce qui réunit d'ailleurs, alors que ce qui sépare, c'est diabolique, diabalein, séparé. Les séparations sont vraiment diaboliques, diabolos, le séparateur. Donc le symbole, finalement, nous renvoie à cet état primitif, holistique, holos tout entier, dont j'ai déjà parlé lors de l'émission précédente. Alors, l'être unifié, il me semble que c'est celui qui ne fait qu'un avec ce qu'il perçoit, et dont les sens vont se fondre ensemble. Alors, là aussi, il y a un nouveau mot, un peu savant. Cette fusion des sens ensemble s'appelle une synesthésie. S-Y-N-E-S, et puis T-H. Donc, anesthésie, Kinesthésie, c'est l'absence de sensation. Aesthésie, c'est la sensation. Donc synesthésie, c'est le fait de fondre les sens ensemble. Hein. Par exemple, si je me promène, bon, c'est la saison, je le répète, dans la campagne. Si je suis frappé par le silence qui m'entoure, hein, et par le vert de ces prairies que je vois, bon, qu'est-ce que je dois dire si je suis vraiment fondu dans l'environnement, comme on dit, hein, dans cet englobant bucolique, hein, je dois dire le silence vert des prés, et non pas le silence des prés verts, vous voyez, hein, parce que ce que je perçois d'abord, c'est le silence avec mon oreille, hein, l'absence de bruit, et le vert avec ma vision, hein, avec ma rétine. Bon, donc, si je dis le silence des prés verts, alors là, je fais une analyse, c'est-à-dire une dissection, hein, analusis et dissolution, hein, dissection et une destruction, hein, et elle n'a rien à voir avec la poésie, hein, pas plus qu'avec la vraie vie, la vie vivante, puisqu'elle sépare ce que l'expérience unit. Autre exemple, tenez Redouane, nous avons eu beaucoup de Mistral cet an dernier, et le ciel était magnifiquement bleu. Hein. Bon, alors je peux dire, le vent souffle, ou le Mistral souffle, pour généraliser, dans le ciel bleu. Mais si je dis le vent souffle dans le ciel bleu, ce n'est pas de la poésie, c'est une analyse, je le répète, qui est destructrice. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire le vent bleu, voyez? Voilà, le vent bleu. Alors là, on touche évidemment à l'énigme, hein, la difficulté de la communication. Bon, c'est vrai que la phrase d'avant ou la phrase d'après, il faudrait peut-être mettre une petite balise, hein, pour peut-être que le mot ciel viendrait. Mais d'abord, je vois le vent et le bleu. Enfin, j'entends le vent et je vois le bleu, vous voyez? Alors, je crois que, bon, pareillement, si j'entends un coucou chanter, hein, eh bien, il chante dans le lointain, finalement, mon cœur bat, hein, eh bien, le chant du coucou va se confondre avec les battements de mon propre cœur, vous voyez, hein. Donc, c'est ça, cette fusion. Les poètes, alors les enfants le savent naturellement, les enfants animent constamment tout ce qui les entoure, hein. Par exemple, Lamartine disait « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» Mais vous savez qu'un enfant peut parler à sa table, à sa chaise, etc. Hein. Donc l'enfant anime le monde, on appelle ça l'animisme. Hein. Le poète aussi, le fou aussi, hélas, hein. Mais aussi, vous voyez, Redouane, l'adulte, quand il n'est plus raisonnable. Par exemple, quand une voiture ne marche pas, on va l'insulter, hein, on va taper sur les roues ou sur le capot, vous voyez. Hein. Ça, c'est la folie quotidienne de l'homme raisonnable, de l'homme cartésien, de l'homme rationnel. Hein. Ça nous arrive, ça. Hein. Une porte s'ouvre pas, alors saleté de porte, etc. Vous voyez, voilà, comme... vous savez, il paraît, enfin, moi, vous avez peut-être eu des chats, Redouane, vous savez que chaque chat, dans une journée, a un quart d'heure de folie. Hein, on appelle le quart d'heure de folie du chat. Hein. Alors, il peut être très placide toute la journée et ensuite courir dans tous les sens pendant un quart d'heure. Eh bien, nous avons tous notre quart d'heure de folie du chat. Hein, s'emporter contre une voiture, méchante voiture, saleté de voiture, je ne te donnerai plus d'essence, etc. Vous voyez, ça arrive, nous. Vous voyez. Donc l'homme cartésien n'est pas tout l'homme. Hein. Et alors à partir de là, nous acheminons vers la conclusion, hein, on comprend ce que peut signifier le pouvoir ontologique du nom lui-même. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire ontologique? Ça veut dire qu'il y a rapport à l'essence. Hein. Donc le nom peut se charger d'un poids de définition qui n'est pas le poids banal et abstrait du langage utilitaire, mais celui d'une vraie émotion quand l'unité est retrouvée. Alors je reprends mon exemple des promenades dans la campagne. Eh bien, dans Le jour se lève, le film de Marcel Carnet, le dialoguiste Prévert fait dire à l'héroïne la phrase suivante. La campagne, c'est quand il fait beau. Vous voyez, alors c'est admirable ça. Hein, c'est-à-dire, elle est vraiment campagne quand il y a les pâquerettes au sol, vous voyez, c'est-à-dire à l'époque de Pâques. Vous savez, Redouane, que pâquerette vient de Pâques. Pâques, parce que la pâquerette fleurit à Pâques, hein, l'époque de floraison des Pâques. Alors la pâquerette, c'est la fleur la plus humble, la plus modeste. Et là, il y en a tellement que nous les piétinons, hein, vous voyez. Bon, eh bien, alors, j'aime bien cette idée que la campagne, c'est quand il fait beau, quand on est environné ainsi, hein, quand... bon, sinon, ce n'est pas la vraie campagne. Alors, c'est vrai qu'au lieu d'un logicien, la formule est absurde, hein, mais seul un mystique ou un poète peut donner cette définition. La campagne, c'est quand il fait beau. Parce que le mystique, le poète ont accès à l'unité, puisque cette unité, ils l'ont vraiment vécue à tel ou tel moment magique et transperçant. Hein. Et alors, finalement, nous réhabilitons ce qui est la plupart du temps méprisé. Hein. Je parlais de la pâquerette, il suffit de jeter un regard charitable sur la moindre fleur, la moindre petite fleur, pour y voir l'éternité en quelque sorte, hein, voir l'univers entier, voir le macrocosme dans le microcosme, comme on dit, vous voyez. Alors, pour résumer tout ça, il me semble, Redouane, je ne sais pas si c'est votre avis, qu'on ne dit rien sur la spiritualité si on emploie simplement des mots abstraits, hein, par exemple non-dualité, etc. La spiritualité est affaire d'expérience, hein. Alors c'est vrai que l'évangile selon Thomas ne parle jamais de poésie. Et par ailleurs, dans cette émission, nous avons parlé essentiellement de poésie. Mais je crois que, même s'il n'en parle jamais, toute la problématique de l'évangile selon Thomas est liée à l'attitude poétique. Il m'est arrivé de faire au temple d'Alès, il y a 2 ans, je crois, hein, une conférence sur spiritualité et poésie. Je n'ai pas du tout parlé de la poésie spirituelle, celle de Peggy ou celle de Claudel. Non, j'ai parlé de l'attitude, justement, spirituelle et de l'attitude poétique. Et les deux, hein, se rejoignent fondamentalement. Alors, donc, plaidons pour une vision pluridisciplinaire ou interdisciplinaire de toutes ces matières.
Merci Michel. Et voilà, on arrive sans s'en rendre compte au bout du chemin. Enfin, est-ce que c'est le bout du chemin ?
Avec les pâquerettes.
Voilà. Et vous savez, le bonheur, c'est pas l'objectif. Le bonheur, c'est le chemin. Donc on chemine, on continuera à cheminer la semaine prochaine, toujours à la même heure, même longueur d'onde. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, il suffit de se rendre sur le site de la radio www.fmplus.org dans la rubrique des mots pour le dire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre chapitre, et cette fois-ci, il s'agira, avec un point d'interrogation, agir,
voilà.
L'action.
Action, point d'interrogation.
Portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir à tous.